Chers collègues, il m'a paru nécessaire de compléter le tableau linguistique de la Russie de l'époque qu'occupent les langues étrangères vivantes par une langue dont le rôle reste souvent dans l'ombre. Ma communication présente un rapide aperçu des pratiques sociales du latin. Le statut de toute langue est déterminé par la quantité et la diversité de ses fonctions. En France, le latin n'a jamais été considéré comme une langue étrangère à différence de la Russie, où le latin a été introduit en tant que langue de la science européenne. Avant 1725, lors du début des activités de l'Académie des sciences à Pétersbourg, le latin était utilisé en Russie comme langue de diplomatie, de médecine et comme instrument de défense de la théologie orthodoxe. Certains prêtres russes quittaient la patrie pour la Pologne, Rome, autres villes des régions catholiques, pour faire ses études principalement dans les collèges jésuites. Pour ce faire, il était obligé de changer de confession. Palladium Rombowski a quitté la Russie sans la permission du patriarche. 11 ans après, il implorait de le pardonner. Rombowski parlait principalement le latin. Stefan Jaworski et Théophan Prokopovitch ont fait le même chemin d'études. Il n'y a pas de grande importance en quelle langue s'exprime le nouveau savoir. La science est unique et porte un caractère universel. Mais le choix de la langue par un savant a une grande importance pour la langue choisie. Le choix définitif de telle ou telle langue reflète et agrandit son autorité. La fondation de l'Académie des sciences à Pétersbourg a élargi énormément les fonctions du latin. Premièrement, ses fonctions gnoséologiques. C'est en cette langue que se faisaient toutes les descriptions des expériences. La légitimité du latin a été approuvée par le règlement de l'Académie des sciences de 1747. D'après ce document, toutes les inventions et résultats d'observation doivent être rédigés en latin ou en russe. Le français et l'allemand sont interdits à l'emploi. La nécessité de décrire en latin une nouvelle connaissance avait la tradition européenne. Les langues vivantes changeaient plus ou moins vite ce qui était considéré comme leur détérioration et l'absence de fiabilité nécessaire pour fixer une nouvelle connaissance. En comparaison avec les langues vivantes, surtout l'allemand et l'italien, le latin avait la grammaire commune, le lexique et la syntaxe développés. Le caractère multilingue de la science russe obligeait constamment les savants à suivre strictement les règles ou parfois à faire le choix. Lomonossov a écrit tous les travaux sur l'histoire et la philologie nationale en langue russe. Mais dans les discours polémiques adressés aux membres de la conférence de l'Académie, il employait seulement le latin. C'est le latin qu'il a choisi pour composer son avis critique sur la dissertation de Gerhard Friedrich Müller, qui s'appelait « De l'origine et du nom du peuple russe ». D'après le règlement de l'Académie des sciences, les étudiants de l'université étaient obligés de bien connaître le latin pour comprendre facilement les cours donnés uniquement en latin ou en russe. La pratique d'emploi des langues était un peu différente. Le français et l'allemand n'avaient pas de statut de langue officielle de la science russe, mais leur rôle en tant que langue de travail était considérable. On sait que tout discours appartient à tel ou tel genre. Le latin scientifique est venu en Russie comme un système stable de genre formé pendant des siècles. Thèse, journal de laboratoire, compte-rendu, annotation, procès-verbal, instruction, monographie, critique, programme, etc. Ces formes du latin ont assuré à la science russe l'unité formelle de la fixation de nouvelles connaissances. Sont mal connus les genres du latin administratif, assez largement employés dans la vie intérieure de l'Académie des sciences. Demande, ordre, rapport, mémoire, note de service, note explicative, etc. Dans tous les domaines de la science russe, le XVIIIe siècle était une grande époque de traduction. On pourrait considérer ce processus comme la passation définitive des pouvoirs gnoséologiques du latin à la langue russe, mais ce passage a pris le temps. Le processus de traduction avait deux directions nettement opposées. D'une part, la science russe s'enrichissait grâce à la traduction en russe de textes latins publiés en Europe et ceux qui ont été rédigés en Russie. D'autre part, toute réflexion scientifique non latine devait être traduite nécessairement en latin comme une langue d'arrivée. À l'époque, l'apparition d'un texte rédigé en russe dans un journal scientifique mettait en doute ou pouvait mettre en doute la force persuasive du texte. La direction de l'Académie des sciences craignait le plagiat. C'est pourquoi elle faisait traduire en latin le plus vite possible toutes les descriptions de nouvelles expériences. En 1756, Lomonosov a lu à la conférence de l'Académie des sciences un discours sur l'origine de la lumière. Il a promis à l'assistance de la persuader de la vérité de sa recherche plus tard, quand le discours sera traduit en latin. 4 ans plus tard, le journal des savants a publié une opinion qui reprochait à Lomonosov le fait que son discours n'était toujours pas traduit encore en latin. Cet exemple illustre bien la pression publique qui obligeait le savant à suivre la tradition. Le même processus avait lieu dans le domaine de l'histoire et de la théologie. Sur l'ordre de Pierre Ier, Gabriel Boujinski traduisait en latin des textes sur l'histoire russe. Au milieu du siècle, le gouvernement s'est proposé d'écrire une histoire officielle de la Russie. Pour y parvenir, l'Académie des sciences s'est chargée de traduire en latin plusieurs annales russes. En 1785 a été traduit le règlement ecclésiastique qui déterminait à partir de 1721 la position juridique de l'Église orthodoxe. La pratique de la traduction en latin de la littérature de genre divers a élargi énormément la quantité de textes en latin et a prolongé le temps de l'usage actif de latin scientifique. La traduction des textes en latin avait souvent pour but la propagation des idées officielles ou religieuses. On traduisait les textes qui avaient une vraie résonance dans la société. Le prédicateur et collaborateur du tsar Théophane Prokopovitch a traduit en latin son éloge solennel prononcé au lendemain de la victoire de Poltava. Il a expliqué son geste par le besoin de glorification de l'activité du tsar réformateur dans le monde entier. La tradition propagandiste de la traduction en latin déclinait peu à peu, mais elle a dépassé le XVIIIe siècle. Les gouvernements russes avaient besoin de nouveaux moyens sémiotiques pour expliquer et promouvoir leur politique extérieure et intérieure. Il s'agit avant tout d'inscriptions et devises faites en latin sur les arcs de triomphe, les obélisques, les tombeaux, au-dessus et au-dessous des images mythologiques. Au fait officiel, l'emploi des personnages mythologiques en forme des statues ou de la peinture et de devises correspondantes était obligatoire. Chaque image était suivie d'une devise inventée ou citée d'un texte classique. Ainsi s'est produit une rencontre réitérative d'une image mythologique avec son porteur initial, langue latine. Les inscriptions et devises latines incarnaient la haute signification des réformes civiles et symbolisaient la joie et l'espoir général des sujets obéissants. En même temps, le latin conférait à chaque inscription une idée de l'infiabilité. La composition des vers en latin était une occupation obligatoire et honorable des professeurs de l'Académie des sciences et de l'Université de Moscou. Odes et poèmes écrits pour les fêtes officielles par Tredyakovsky, Juncker, Lomonosov, Prokopovitch et autres jouaient des rôles essentiellement laudatifs. La langue latine était l'objet d'études pour les jeunes russes presque de toutes les conditions, y compris une partie de la noblesse, surtout pour ceux qui voulaient avoir les connaissances approfondies. Apportons deux exemples. Le latin, l'allemand, l'italien et le français étaient des disciplines principales à l'école d'Ernest Gluck à Moscou. Ouverte en 1705, elle a reçu les enfants des nobles, des fonctionnaires et des marchands. En 1721, Prokopovitch a créé dans sa maison une école où pendant 15 ans ont fait les études 160 élèves. Prokopovitch donnait la préférence aux orphelins et aux enfants des parents pauvres. À l'école, on apprenait en particulier le russe, le grec, le latin, la logique, la rhétorique. Théodore Karjavin, de la famille marchande, a vécu à l'étranger 19 ans. À l'âge de 17 ans, à Paris, il apprenait le russe par l'intermédiaire du latin. De Paris, il priait son père de faire dans ses lettres de larges espacements entre les lignes et les combler non pas de la traduction littéraire, mais écrire au-dessus de chaque mot russe un mot latin correspondant. Selon Karjavin, cette méthode devrait lui aider à progresser le plus vite possible. Pourquoi n'avait-il pas demandé à son père d'inscrire les mots en français? C'était des riches qui avaient la fortune de payer leurs études en Europe. Ceux qui allaient à l'étranger apprenaient souvent la langue de Cicéron, sans lequel les études universitaires approfondies, je répète, n'étaient pas possibles. Initialement, la politique en matière des langues de l'université de Moscou avait pour objectif le passage définitif de l'enseignement en latin à l'enseignement en russe. Ce désir, surtout par rapport à la jurisprudence, était quelquefois exprimé par Catherine II. Mais le passage en russe a pris le temps. La fondation de l'université de Moscou a été suivie de l'ouverture de deux gymnases. La première était destinée aux nobles et la seconde aux roturiers. Les deux étaient responsables de la formation des élèves en langue étrangère vivante, le français et l'allemand, mais le latin a été aussi de la première importance. On préparait dans les gymnases des futurs étudiants obligés d'écouter les cours en latin. La parfaite connaissance du latin manifestait les séminaristes. En 1765, le métropolite Platon a composé un des premiers manuels de théologie en langue russe. Les enseignants du séminaire de Toula l'ont traduit en latin et l'utilisaient dans le processus pédagogique seulement en traduction latine. C'est la tradition de réfléchir en latin qui a forcé les interprètes d'accomplir cette traduction en langue, disons, maternelle. Le mot maternel, j'ai mis bien sûr en guillemets. Un grand rôle dans la propagation du latin appartenait à la littérature latine de toute forme et origine, imprimée et manuscrite, ramenée de l'Europe et imprimée en Russie. Cette littérature faisait partie des bibliothèques d'État et privées. Par exemple, un diplomate et chef du département de diplomatie du XVIIe siècle, Artamon Matveyev, a créé une bibliothèque qui comportait en 1682 46 livres latins. La bibliothèque de son fils, Andrei Matveyev, comportait en 1733 155 livres russes, 432 livres latins et 191 livres français. Le clergé était sûrement l'état le plus latinisé. La bibliothèque de l'évêque de Vologda Afanasi Kondoïdi, mort en 1737, se composait de 930 livres, dont 696 étaient de l'origine latine. Un inventaire de la bibliothèque de l'évêque de Kostroma Simon, mort en 1804, composait 600 livres latins. Il faut noter le rôle des imprimeries. Le premier livre paru à l'imprimerie de l'Université de Moscou en 1756 portait le titre Orbis Sensualium Pictus de Jan Amos Komensky. L'année de l'ouverture de l'imprimerie universitaire sont parues les éditions de Virgile, Ovide, Horace, Terence, Plaute, Juvenal, César, Cornelius Nepos, Tacite et autres. La littérature classique et néolatine venait en aide aux imprimeurs quand il n'y avait pas de demande en littérature russe. Le latin était un moyen traditionnel de sacraliser un objet matériel. On l'utilisait avec le russe sur les armoiries des nobles, sur les médailles, gravures, etc. Nous avons examiné 1562 armoiries russes, dont 36 portent les devises latines. In Deus Salus Mer, famille du comte Bestuzhev-Rumen. Semper Immota Fides, famille du comte Vorontsov. Non Solum Armis, famille du comte Rumantsev. La pédagogie attribuait un rôle éducatif aux aphorismes latins dans la formation morale de la jeunesse. On croyait qu'ils garantissaient à leurs porteurs une provision morale la plus haute. Les aphorismes faisaient une partie obligatoire de tout manuel du latin. C'est pourquoi la publication des œuvres de Jan Amos Komensky était permanente. La culture russe a emprunté une longue tradition européenne d'employer le latin dans les ex libris, les épigraphes, les épitaphes, d'en composer des annonces. Pas de temps d'apporter les exemples. Le latin était une langue vivante pour une partie considérable des savants russes et des jeunes qui faisaient les études aux établissements scolaires latinisés. Tous les élèves des écoles latinisées étaient obligés de parler latin sous la menace de punition, même pendant des heures creuses. On peut dire que les professeurs et les précepteurs réalisaient dans ce cas-là les fonctions de gouverneurs. La langue latine avait les formes orales développées. Les professeurs et les élèves prononçaient plusieurs fois par an discours publics et sur des sujets scientifiques, théologiques, moraux. Le genre suprême de l'instruction scolaire en matière de latin oral était un débat public, dispute. L'habileté de résistance aux objections témoignait le degré le plus élevé de la formation linguistique de l'orateur. On faisait le plus souvent des débats dialectiques. Quant aux séminaristes, les meilleurs parmi eux parlaient le latin sur n'importe quel sujet bien mieux qu'en langue maternelle. Les chefs ecclésiastiques mettaient parfois en relief que la connaissance du russe de leur élève laissait à désirer. Le latin oral était une forme obligatoire d'examen pour ceux qui revenaient des universités européennes et cherchaient du travail dans le domaine de la médecine, de l'enseignement du latin ou d'une matière donnée traditionnellement en latin. Avec l'ouverture de l'université de Moscou a commencé la soutenance régulière de thèses en latin. À partir de 1819, toutes les thèses se présentaient simultanément en latin et en russe. En ce qui concerne les thèses de doctorat, on les rédigeait et soutenait en latin jusqu'à 1860. Et pour conclure, un large emploi du latin dans les recherches scientifiques a assuré la liaison étroite entre la science russe et la science européenne par les formes verbales, la terminologie et les sujets communs. Les textes latins classiques et la littérature néo-latine faisaient une partie des bibliothèques d'État et privées, surtout de celles appartenant au clergé. Les textes classiques latins comportaient une vraie mythologie gréco-romaine qui n'était pas faussée par la traduction libre. Le latin et la mythologie sont devenus les langues de la culture russe. Bon, je vais terminer. Dixi.